Hervé.
Bonjour.
Avec vous chaque matin, on lit la presse dans Libération aujourd'hui. Un rapport rédigé par des experts de l'ONU dévoile les crimes sexuels perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023.
Le viol comme arme de guerre, c'est ce titre choc sur fond rouge sang qui barre la une du journal. Le rapport a été publié lundi. Il clôt l'enquête d'une mission d'experts rattachés à l'ONU qui ont visionné les vidéos, récolté les indices et questionné les survivants des massacres du 7 octobre qui ont fait 1200 morts. Il existe de bonnes raisons de croire que des violences sexuelles se sont produites en plusieurs endroits, conclut le rapport. Cette prudence dans les termes s'explique par l'absence de victimes directes et pour cause, elles ont été tuées, et parce que les corps ont été enterrés rapidement en vertu de la tradition juive, précise Libération.
Ce qui permet au Hamas de nier en bloc, ses dirigeants parlaient hier d'accusations infondées visant à diaboliser la résistance palestinienne.
Oui, sauf que l'ONU était plutôt suspecté par Israël d'abriter des militants de la cause palestinienne. De fait, le rapport mentionne aussi des exactions commises depuis le 7 octobre par des Israéliens envers des prisonniers, ce qui a également fait rugir le gouvernement israélien. Libération rappelle en tout cas qu'une première enquête publiée le mois dernier par une association d'aide aux victimes israéliennes établissait déjà des crimes à caractère sexuel commis en masse contre des civils. Toujours dans Libération, une commissaire de la police israélienne évoque des viols, des organes sexuels coupés, des tirs dans les organes génitaux, des attouchements multiples commis par le Hamas. Selon les experts de l'ONU, les otages détenus par le Hamas seraient eux aussi soumis à des violences sexuelles.
L'hebdomadaire Franc-Tireur relève pour sa part que la reconnaissance des viols commis par le Hamas divise les associations féministes.
La tension monte entre les universalistes qui veulent lutter contre toutes les violences sexuelles, d'où qu'elles surgissent, et des militantes décoloniales plus complaisantes envers les racisés, surtout s'il s'agit de la Palestine. C'est ce qu'écrit Franc-Tireur, remarquable et sidérante enquête qui met en lumière le rôle dans cette dérive du collectif Urgence Palestine qui regroupe des associations de gauche et d'extrême gauche, parmi lesquelles on trouve même un réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens classés terroristes en Allemagne. Franc-Tireur révèle aussi le rôle d'une activiste russe pour qui, je la cite, la libération de la Palestine est une cause féministe, oubliant en cela que le Hamas voile les femmes et punit de mort les homosexuels. Des féministes refusent heureusement cette dérive et Franc-Tireur le raconte également. Leur combat est salutaire, mais de toute évidence, il ne fait que commencer.
Et l'article est absolument à lire parce qu'il remet bien les pendules à l'heure. Autre dimension de la cause des femmes, l'étude annuelle de l'INSEE montre que les inégalités salariales demeurent entre hommes et femmes, même si elles se réduisent.
C'est le chiffre du jour, il s'affiche dans les Échos et dans Ouest France avec des infographies très claires. À temps de travail identique, le salaire moyen des femmes est inférieur de 14,9% à celui des hommes. Cet écart s'est réduit de 30% depuis 1995, mais il reste important. Sur l'ensemble des salariés, sans tenir compte du temps de travail, des qualifications ni des métiers, les femmes gagnent 23,5% de moins que les hommes. Et plus elles ont d'enfants, plus la différence est importante. Une des explications tient au fait que c'est le travail des mères qui sert de variable d'ajustement quand les couples ont des enfants. C'est ce que montre une autre étude publiée hier et citée par le journal Les Échos. Le Point précise aussi que parmi les 0,01% de salariés les mieux payés, seuls 18% sont des femmes.
Une autre étude sur un tout autre sujet, la vision que les Français ont de l'Europe, et c'est à lire dans le quotidien L'Opinion.
Étude réalisée par un think tank baptisé Destin Commun, ce qui laisse deviner qu'il est pro-européen, des citoyens ont été interrogés en France, en Allemagne, en Espagne et en Pologne, ce qui permet de comparer leurs réponses. Il en ressort que les Français sont les plus sceptiques vis-à-vis de l'Europe. Seuls 41% jugent que l'Union européenne est une bonne chose, alors que le jugement positif est nettement majoritaire dans les autres pays. Pour autant, 54% de nos compatriotes refusent de sortir de l'Union européenne, avis majoritaire d'ailleurs dans tous les électorats en France, de la droite à la gauche, sauf au Rassemblement national, il fallait le préciser. À 3 mois des élections européennes, l'étude montre aussi que les Français sont les seuls à classer le pouvoir d'achat en tête de leurs priorités. Ce sont aussi les Français ceux qui accordent le moins d'importance à la question de l'immigration. Vous avez bien entendu, j'ai dit le moins d'importance à la question de l'immigration.
Vous pouvez le dire une troisième fois ?
Non, 2 fois suffira.
Pour terminer, de la poésie, si on peut dire. Le Figaro revient sur la polémique autour du choix de Sylvain Tesson comme parrain du Printemps des Poètes.
La cabale contre Tesson cache une affaire d'argent, titre Le Figaro. Derrière cette accroche un peu racoleuse, pas de scandale caché ni de détournement de fonds, pas une affaire de gros sous mais de petits dessous qui éclaire les difficultés de la poésie en France. À lire Le Figaro, la pétition qui critiquait le choix de Sylvain Tesson visait surtout la présidente du Printemps des Poètes, Sophie Nolot, qui a démissionné depuis. En toile de fond, si j'ose dire, la question des subventions publiques. 1 200 000 euros par an versés par le Centre National du Livre à un secteur, la poésie, assez dynamique mais très fragile. Le Printemps des Poètes est l'une des principales manifestations dédiées à la poésie. Il a suscité la jalousie de multiples autres acteurs, d'autant que le festival prétendait sortir la poésie de l'entre-soi d'un certain élitisme, écrit Le Figaro. L'article évoque des querelles d'ego, des clans, façon règlement de compte à hockey choral, l'expression est dans l'article. On a besoin de poésie dans ce monde de brutes. On découvre qu'il y a de la brutalité dans le monde des poètes.
Et surtout, pourquoi avoir visé Sylvain Tesson si c'était une affaire de petits sous ?
Mais il vaut mieux écouter Léo Ferré.
Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés. Quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air.
Hervé Gattegno, dont les ailes de géant ne l'empêchent pas de marcher. C'est ça, hein ?
Espérons que non.
On se vous dit à demain, dans un instant, nos esprits libres. Ruth El-Krieff et Marc Lambron, qui sont deux poètes à leur façon.